Bienvenue sur le balado Espace Prof. Aujourd'hui, une entrevue avec Nadia Bélanger, une enseignante du secondaire qui enseigne l'éthique et culture religieuse et, comme tous les enseignants que nous vous présentons, une enseignante passionnée et pleine de ressources. Bonne écoute! Alors, bonjour Nadia, merci d'avoir accepté de nous jaser un peu aujourd'hui.
Bonjour Alexandra.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, t'enseignes quoi, où, à quel niveau et tout? Parle-nous un petit peu là, de ton parcours et qui tu es.
Donc, je m'appelle Nadia Bélanger, j'enseigne en éthique et culture religieuse à l'école secondaire Dès-au-Sommet, qui se situe dans le centre de service de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. J'enseigne à deux niveaux, c'est-à-dire principalement en quatrième secondaire. Généralement, on me donne tous les groupes de quatrième secondaire à ma tâche. Et j'ai également deux groupes en deuxième secondaire qui s'ajoutent.
Donc, qu'est-ce qui te fait choisir? Ça ressemble pas mal à ça, ta tâche. Oui. ça, c'est habituellement. Je l'ai dit que ça fait quand même quelques années que c'est la même tâche que tu as, c'est ça?
Oui, je dirais que ça fait un bon 3-4 ans là, que j'ai cette tâche-là, parce qu'en éthique et culture religieuse, on arrive rapidement à une permanence. Surtout dans le centre de service où je suis. Par contre, avant, j'ai enseigné un petit peu l'univers social, l'anglais, langue seconde. Donc, j'ai touché aussi à d'autres matières.
Donc, à nos débuts, hein, on prend quelques, des fois, des petites queues de tâches et tout. Je déduis que tu as vécu ça toi aussi.
Exactement.
Pourquoi est-ce que tu avais choisi l'enseignement en tant que tel? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, là? Parle-nous un petit peu de ton parcours avant aujourd'hui.
Oui, donc sans rentrer dans les détails, moi, mon parcours au secondaire, j'avais pas trouvé ça facile du tout là, en lien avec la crise d'adolescence, les premières expériences, le côté social, les relations amoureuses, tout ça. Et j'ai eu des enseignants qui m'ont vraiment aidé là, pendant mon parcours au secondaire. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je pense que je serais capable de faire la même chose, d'apporter ça à d'autres personnes, à d'autres jeunes. Et j'aimais beaucoup la relation d'aide. Donc, je savais que je voulais être en relation d'aide. Par contre, quand je regardais des métiers comme psychologue ou des métiers comme médecin, là, je me disais, oh là, c'est de la relation d'aide, mais c'est tellement poignant au niveau des émotions que je pense que je ne serais pas capable de supporter d'être dans une position comme ça psychologiquement. Donc, je me suis dit, l'enseignement, c'est un bon compromis. On est dans la relation d'aide. On a une partie qui est dans l'émotion, mais on a aussi une dimension qui est plus intellectuelle à notre travail.
Donc, une variété. Donc, tu n'étais pas 100% tout le temps dans l'émotion nécessairement.
Exactement.
Est-ce que tu peux me parler, on entend beaucoup parler là, des difficultés qui sont vécues là, dans le milieu de l'éducation, que ce soit en lien avec la tâche, des fois avec le milieu dans lequel on est, la matière qu'on enseigne. Qu'est-ce qui est difficile en éducation là, que tu as vécu toi ou que tu remarques?
Ta question me fait penser à une question qu'on m'avait posée lors de mon dernier stage là, dans mon parcours de formation. On m'avait posé sensiblement la même question, puis je donnerais la même réponse à ce moment-ci.
Parfait.
j'avais répondu, c'est le manque de collaboration, de coopération dans les écoles que je trouve le plus difficile. Justement, là, j'en ai parlé à la question d'avant. Moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse encore, c'est la relation d'aide, mais je me dis, on ne peut pas être en relation d'aide, aider ces jeunes-là à grandir, à se développer, à devenir de meilleures personnes tout seul. C'est-à-dire que dans une école, c'est un travail d'équipe. Et je suis chanceuse dans mon milieu. Oui, il y en a de la collaboration, il y en a de la coopération, mais selon moi, ce n'est pas assez. J'aimerais que les enseignants allent encore plus vers ça. Par contre, je le sais, c'est qu'une des difficultés qui vient avec ça, c'est qu'on n'a pas de temps pour se rencontrer. Mmh. On n'a pas de temps à notre horaire qui est prévu nécessairement pour collaborer, pour s'arrimer, prendre le temps de vraiment d'entrer en dialogue puis de voir comment on peut s'arrimer ensemble, travailler ce contenu-là de façon différente dans deux matières pour être complémentaires. Donc, pour moi, c'est vraiment une difficulté qui est majeure, là, cette collaboration-là,
ce manque de temps-là,
ouais, cette co-construction-là qui est manquante dans le milieu de l'éducation, puis qui serait bénéfique à la fois aux enseignants et aux élèves. Donc, ça, c'est
d'avoir du temps pour s'asseoir ensemble, puis réfléchir, puis mettre en commun l'expertise, effectivement, c'est difficile. Ouais. Il y a des moments, là, il y a des journées pédagogiques, il y a des rencontres, mais elles ne sont pas assez fréquentes, puis elles sont remplies de tellement de choses qu'on dirait que ça, c'est effectivement mis de côté.
Et face à des difficultés, ça demande un temps d'arrêt. Dans nos vies personnelles, quand on rencontre une difficulté, on a besoin d'un pas de recul, d'un temps d'arrêt pour prendre le temps de réfléchir, trouver des solutions, puis après ça, les mettre en place. Donc, pour moi, je me dis, si on s'arrête pas, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, là, vraiment, de prendre le temps de réfléchir ensemble, c'est difficile de surmonter ces difficultés-là là, en essayant toujours d'aller à la plus grande vitesse possible.
Est-ce que tu as quand même trouvé dans ton milieu certaines personnes avec qui tu peux avoir ces échanges-là, avoir du temps pour réfléchir? Des fois, on le sait, là, être enseignant, je pense que c'est 24 heures sur 24. Là, on en rêve des fois, puis on y pense à tout moment, là, que ce soit en vacances, que ce soit en voyage. On a notre tête d'enseignant qui roule tout le temps. Là. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais c'était comme ça pour moi. Mais je déduis que c'est comme ça pour beaucoup. Là. Mais
ça
on
doit
arrive
faire
des
partie
fois.
De la personnalité d'un prof. Là. Je ne sais pas à quel point ça en fait partie, mais. Ouais,
on magasine, on voit de quoi ça nous fait penser à une idée à faire avec nos élèves. Si on s'inquiète pour des élèves, ça nous habite, puis ça peut nous réveiller la nuit, puis on y pense tout le temps. Là. Je pense que c'est une des difficultés, c'est vraiment de décrocher. J'ai jamais encore trouvé comment là, décrocher de ce côté-là. Mais est-ce que tu arrives à trouver des gens?
Oui, à l'école, en fait, je pense, puis c'est un conseil que je donnerais là, à tous les enseignants, là, c'est que c'est tellement important, pas de trouver, pas que nécessairement tous les collègues là, nous appuient, mais de trouver au moins un ou deux points d'appui, c'est-à-dire un ou deux enseignants en qui on a vraiment confiance, qu'on peut aller voir, qui vont être de bons conseils, puis qui vont pouvoir nous supporter, nous aider, être à l'écoute, puis un peu nous guider là, dans nos réflexions pour trouver des solutions à mettre en place. Parce que réfléchir tout seul devant des difficultés, là, c'est difficile. Donc, d'avoir un ou deux points d'appui dans une école, ça peut être vraiment là, à notre avantage. Ça, je te dirais que c'est vraiment la difficulté, je trouve, au niveau de l'éducation plus en général. Il y en a une autre que tu as nommée auparavant, c'est toute la difficulté à gérer nos émotions. Hein. Tu l'as dit, les enseignants, les enseignantes, on a toujours la tête pleine, on s'en fait rapidement pour nos élèves qui vont pas bien. Moi, ça, c'est une difficulté aussi que je rencontre au quotidien. C'est que j'ai beau essayer de me détacher, mais émotivement, je me sens impliquée par rapport aux élèves qui sont en détresse psychologique, qui ont des problèmes de santé mentale. On les voit, ils vont pas bien. C'est dur de se détacher, d'arriver chez nous, là, puis de dire, cet élève-là vit ça, puis je mets la switch à off. Ben non, on est des humains, hein, puis on a des grands cœurs. Ouais. Là, c'est pas pour rien qu'on fait cette profession-là. Donc, c'est une difficulté, ça aussi, là, qui est particulière, là, je trouve, à notre profession.
Dernièrement, je voyais justement, là, on entend parler de délestage au niveau des hôpitaux, là, de choix de chirurgie qui ne se passe pas. J'entendais l'expression de délestage en éducation, que par exemple, on a une élève qui est en souffrance, on voudrait qu'il ait les services nécessaires, il ne les a pas. Fait que comme enseignant, on vit un peu ce côté-là, je le sais que c'est pas aussi extrême que quelqu'un qui va nécessairement là, pas avoir l'opération dont il a besoin là, pour peut-être sa survie, là. Mais quand même, on a ce côté-là qu'on peut pas nécessairement offrir tout le service, puis on faudrait qu'on décroche en soirée puis qu'on passe à d'autres choses. C'est pas évident, effectivement.
Non, vraiment. Puis il faut comprendre que les enseignants et les élèves sont liés, là. Le lien est tellement fort. Si on considère que les élèves sont délestés, qu'il y a du délestage, ben, faut considérer que les enseignants se sentent de la même façon. C'est-à-dire que si l'élève sent qu'il n'y a pas les services pour l'aider, l'enseignant se sent aussi délesté parce que lui non plus ne sent pas qu'il y a des services qui sont présents dans son école pour aider ses élèves. Donc, les deux se retrouvent dans la même, je veux dire, dans le même état psychologique.
La même détresse, là. Ouais.
La même détresse où on se dit, ben OK, là, j'ai des élèves qui vont pas, mais j'ai pas les services pour les rediriger. Ouais. Donc, ça devient très inquiétant pour les enseignants aussi qui veulent accompagner ces jeunes-là au-delà de la transmission des connaissances ou du développement des compétences. Là, ce sont des humains avant tout, les jeunes qu'on a devant nous.
Effectivement. J'entends beaucoup d'histoires comme ça. Là. J'ai un paquet d'élèves qui prennent du retard soit académiquement ou qui ont des difficultés à la maison ou autre. Puis là, les services ne sont pas au rendez-vous. Puis tu es pris là, comme tu es l'adulte qui voudrait venir régler tous ces problèmes-là et tu peux pas. Puis il faudrait que tu trouves l'équilibre de décrocher quand tu arrives chez toi pour pouvoir t'occuper de tes propres petits pots à la maison. Mais c'est difficile de mettre ça de côté. Toi, qu'est-ce qui t'aide à décrocher? Quand ça, c'est difficile, justement?
Oui, bien, ce qui m'aide... écoute, je te dirais que quand j'arrive à la maison, là, j'essaie... en fait, ce qui m'aide beaucoup depuis les dernières années, c'est que moi-même, j'ai mes propres enfants. Donc, c'est sûr que quand j'arrive à la maison, la première chose qu'on fait, là, c'est que je rentre mon sac à dos à l'intérieur. Puis aussitôt que je le dépose, là, je referme la porte, on ressort à l'extérieur. Donc, ce que je fais depuis 2 ou 3 ans, depuis que j'ai eu mon premier garçon, c'est que je passe 1 heure à l'extérieur environ en revenant de travailler. Juste ça, en faisant ça, j'ai vu une grosse différence. C'est-à-dire que quand j'ai accumulé beaucoup de pression ou d'émotions durant la journée, de passer 1 heure à l'extérieur, juste avoir du plaisir, jouer avec
mon garçon. Prendre l'air, bouger.
Ça fait vraiment du bien là, pour mon état général. Puis une fois qu'on rentre à la maison, les deux, là, on est comme bien, là. Lui, il revient, tu sais, de la garderie. Des fois, il y a eu des mauvaises journées aussi. Moi, je reviens d'école, puis on a des super de bonnes journées aussi. Mais quand on en a des plus difficiles, ça nous fait du bien à tous les deux, là, vraiment, de juste passer une belle heure à l'extérieur, profiter de la météo. Puis je dis ça, mais quand il pleut, on met nos bottes d'eau, notre imperméable, puis on est dehors quand même. Donc, ça, c'est vraiment...
C'est votre moment de transition, là, d'avoir un moment de transition où on... Ouais, on se donne le temps beaucoup. De se déposer. Effectivement, ouais, très, très bon conseil. On entend beaucoup parler d'enseignants qui quittent encore plus dernièrement. Là, les statistiques sont assez effrayantes de voir. On entendait déjà que dans les 5 premières années, on perdait une bonne partie des enseignants. Là, on perd même des enseignants qui devancent leur retraite, des enseignants qui quittent pour complètement par épuisement et autres. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a déjà affecté? As-tu déjà pensé à quitter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée là, puis qui fait que tu es encore là?
Oui, donc j'ai eu 8 ans d'expérience. Ça fait environ 3 ans que j'y pense. Donc, à partir de ma 5e-6e année d'enseignement, là, je rentre dans les statistiques là, où j'ai commencé à me questionner. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis à la bonne place? Je dis à mes proches, souvent les proches ne comprennent pas parce qu'ils me disent « Bien voyons, t'as donc bien de l'air passionné. » Oui, c'est vrai, la passion, ça n'en ira jamais. Là. C'est vraiment un métier, une profession que j'ai choisi par passion. Mais on y pense pour tout le reste. Là. Moi, depuis que j'ai des enfants, le questionnement est arrivé aussi avec mes jeunes enfants. Quand j'arrive à la maison, je suis obligée de travailler le soir, que ça l'empiète sur l'histoire de mon garçon avant de se coucher, que je suis obligée de travailler la fin de semaine. Couper mon temps en famille avec mon mari, mes enfants, ça a commencé là, à venir me chercher. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir le questionnement. Qu'est-ce qui me fait changer d'idée? Qu'est-ce qui fait que je reste malgré les questionnements? Oui. Ben, je dirais que c'est qu'à chaque rentrée scolaire, c'est comme si je vivais le coup de foudre là, à chaque fois. Je pense que c'est ça qui me sauve, c'est que à chaque année scolaire, on rentre puis on voit les jeunes devant nous, puis c'est une nouvelle histoire d'amour qui repart, puis ça dure encore une année après. Quand on les quitte, on a le cœur en miettes d'équité parce qu'on les a tellement aimés pendant une année, puis ça recommence l'année d'après, on retombe en amour avec des nouveaux jeunes, puis c'est un peu ça qui se passe dans ma situation. Puis c'est pour ça que je fais l'analogie avec l'histoire d'amour, parce que c'est tellement une passion pour moi, l'enseignement, que je me, des fois, juste, tu sais, à y penser, à quitter, je me dis, mais ça me ferait tellement mal, ça me blesserait tellement de...
Ça me ferait tellement de peine,
ouais. Ça me ferait tellement de peine au fin fond là, de ne plus pouvoir pratiquer cette profession-là que j'aime autant. Donc, c'est ça qui fait que je reste là année après année. Et je ne sais pas si je vais rester encore longtemps. Je me questionne, ça fait partie de mes questionnements.
Ça revient souvent sur la relation avec les élèves et la réponse qui revient le plus souvent, c'est ça qui nous garde. Le lien avec les élèves, c'est ultra fort. Ça revient énormément.
Oui. Puis, moi, c'est certain que j'ai beaucoup d'élèves que je garde après sur mon réseau social, avec qui je reste en contact, que je vois grandir, évoluer, tout ça. Puis on en a, hein, des beaux messages de reconnaissance. Là. Oui. Parfois, les élèves, c'est pas sur le coup, c'est pas nécessairement l'année, là, tout de suite quand on l'a à la fin de l'année, que l'élève va dire « Ah, merci beaucoup, je suis reconnaissant pour telle chose, telle chose. » Parfois, on a des messages de reconnaissance qui vont arriver 2 ans, 3 ans, 4 ans après qu'on ait eu la cohorte. Puis l'élève va dire « Écoute, t'as fait vraiment une différence dans ma vie, tu m'as amené à développer telle habileté. Grâce à toi, j'ai appris à mieux penser, mieux réfléchir. Maintenant, ça m'aide dans ma nouvelle fonction, dans mon métier. » Donc, on se rend compte de l'impact qu'on a auprès des jeunes, puis même plusieurs années, des fois, après qu'on les a eus. Donc, ça aussi, c'est une raison qui fait que je reste, c'est que les jeunes sont reconnaissants. On le voit qu'on fait une différence. Ma matière est dans le champ du développement de la personne. Donc, pour moi, c'est hyper important là, de permettre aux jeunes de se développer là, pleinement.
De s'exprimer.
S'exprimer. Donc, ça aussi, là, ça fait que je reste, je me dis, OK, on a de l'effet. Les jeunes le ressentent, sont reconnaissants. Donc, ça nous donne le goût de se rembarquer avec des nouveaux jeunes l'année d'après, puis de leur apporter un petit quelque chose là, au niveau de leur personnalité ou de leur développement qui va pouvoir faire une différence plus tard. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Je ne pourrais pas dire elle est de qui, parce que ça fait des années que j'utilise tellement je l'adore, mais ça dit qu'on ne récolte jamais les fleurs tout de suite après avoir semé les graines. Donc, je trouve que le métier d'enseignant ou d'enseignante, c'est un peu ça. On sème des graines, des fois même aléatoirement, de misère. Parfois volontairement, on sait exactement où on les place, là, ces petites graines-là. Puis c'est des années plus tard, des fois, qu'on voit les fleurs là, de ces semences-là au fin fond.
Et des fois, ils ne nous le disent pas tout le temps, surtout t'es au secondaire, on s'entend qu'ils ne sortent pas du cours en disant « Merci madame, c'était super intéressant, j'ai particulièrement aimé ceci, cela ». On ne se fait pas applaudir à la fin d'un cours, là, on n'est pas des pilotes d'avion qui atterrissent, mais des fois, on le voit. Fait que même si ce n'est pas une reconnaissance qui est dite, on le voit, on voit progresser l'élève, on voit l'influence qu'on a réussi à avoir sur certains choix, certaines façons de faire, ou quand on les voit aller réparer une relation après une conversation qui ont lieu avec nous, puis qu'on les voit là, travailler en équipe avec un autre. Mais ça aussi, ça n'est une reconnaissance que des fois, on note peut-être pas assez. Qu'on la voit, mais on n'y pense pas, disons, des fois, mais on a plus d'impact qu'on pense.
Tu me fais penser à une petite anecdote. L'année dernière, quand j'enseignais, j'ai un parent qui prend le temps de m'écrire un courriel. Ça, on apprécie tellement ça quand les parents prennent le temps. Moi, dans mon cas, je suis vraiment choyée. Ça m'arrive quand même assez régulièrement. Puis le papa, il me dit « Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à mon gars, mais il est tellement à l'écoute ces temps-ci, puis il est tellement rendu tolérant avec son frère, ça fait vraiment une différence à la maison. » Donc, c'est certain, on était justement en train de traiter du thème de la tolérance, là, puis on avait beaucoup d'échanges et de dialogues autour de ça en classe. Puis pour moi, c'est du bonbon de recevoir des courriels comme ça, puis de voir que même au-delà de l'école, là, ça c'est vraiment un bagage qu'on leur donne, là, puis à la maison, les parents le voient aussi, le ressentent, là, que ça fait une différence.
C'est beaucoup plus que de la matière enseignée, on s'entend.
Oui.
Qu'est-ce qui est le plus beau de du métier d'enseignement, mais peut-être aussi de ta tâche, parce que je t'entends parler là, de tout ce que tu fais en classe au niveau de l'éthique et tout. Là. Qu'est-ce qui est beau? Parle-moi du positif. C'est large hein, comme question. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup.
Il y a plein de belles choses. Moi, dans le cadre de ma matière, là, étant donné que les deux premières compétences se base sur la troisième, qui est la pratique du dialogue, là, qui prend vraiment toute la place là, dans mon cours. Ce sont vraiment les échanges là, que je vis avec les jeunes, ce qu'ils peuvent dire, les réflexions qu'ils peuvent avoir. Ça m'impressionne. C'est arrivé plusieurs fois là, qu'un élève a dit quelque chose qui était tellement beau que moi et d'autres élèves de la classe, on se met à pleurer, là, tellement. T'sais, pas pleurer de... Des grosses larmes. Non,
des grosses larmes, mais d'émotion, là. Oui, ça, oui. Ça, oui.
Les yeux mouillés, là, tellement que c'est beau.
C'est touchant, là.
C'est touchant. Donc, j'ai la chance, moi, de vivre ça avec la matière que j'enseigne, là, de vivre des dialogues qui sont incroyables avec les jeunes. Puis, je reconnais pas les adolescents, parfois, dans les préjugés, là, qu'on a sur eux, qu'on entend. Auprès des adultes, des personnes âgées, de d'autres générations qui disent « Ah, les adolescents! »
Ça là, réfléchit c'est vraiment, pas, ça vraiment pense la pas pire aux
génération,
autres.
Ouais, ça pense pas aux autres, ouais. Ils sont égoïstes. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le contraire. Devant moi, quand ces jeunes-là s'expriment puis qu'on leur donne le temps de bien s'exprimer puis d'apprendre à s'exprimer puis d'écouter les autres. On les écoute,
ouais.
Ouais, là, on se rend compte que, OK, non, c'est impressionnant ce qu'ils ont à dire. Puis parfois, c'est plus intelligent que ce que les adultes ont à dire aussi. Que certains adultes ont à dire, en tout cas.
Puis le dialogue, on s'entend qu'on a besoin de ça, là. On en a vu de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux, là. C'est génial qu'à l'école, on puisse leur laisser la place de s'exprimer, de respecter les autres, d'être bienveillant. C'est une matière que je trouve qui est ultra importante, qui est au centre de tout. Moi, je suis en technologie présentement, comme conseillère pédagogique, notre cadre de référence de la compétence numérique au centre, en plein milieu, c'est justement l'éthique. Et c'est le côté éthique, bien sûr avec le numérique, mais d'être un citoyen éthique, c'est pas juste avec le numérique, c'est partout, là. C'est comment écouter l'autre, comment respecter les autres, c'est ultra important. Donc, c'est une matière vraiment géniale que tu enseignes.
Bien, merci. Hein. C'est pas pour rien que je l'enseigne, c'est parce que j'y crois, même qu'au départ, ma formation là, est en univers social. Mais quand j'ai terminé mon baccalauréat, là, dès la première année, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrat en éthique et culture religieuse et je suis complètement tombée en amour avec le programme. Quand j'ai vu ce programme-là, je me suis dit c'est ça que je vais enseigner. Donc vraiment, là, je me compte vraiment choyée de pouvoir enseigner cette matière-là. Oui, l'éthique, c'est important. Et je te dirais que pour revenir à une de tes questions précédentes, c'est une difficulté dans la tâche de ne pas avoir assez de temps parfois pour aller au fond des sujets avec les jeunes ou de vraiment là, aller développer les habiletés comme la pratique du dialogue au maximum parce que dans les grilles horaires, là, il y a très peu de temps qui est réservé à l'éthique et culture religieuse. Donc,
le nombre de minutes n'est pas le même que certaines autres matières, c'est ça? Donc, exactement. Moins de temps que, par exemple, en français ou autre.
C'est ça. C'est une difficulté. Par contre, ça ne fait pas qu'on n'y arrive pas à développer là, des belles habiletés. C'est certain que d'avoir un petit peu plus de temps pour le faire, là, ce serait encore mieux.
Effectivement. Avec toute cette pandémie depuis le printemps dernier, toi, tu as vécu ça comment de ton côté? Quel impact que ça a eu sur ton quotidien en tant qu'enseignante?
En fait, c'est ça. Moi, je suis en congé de maternité depuis le mois de mai dernier. En fait, quand le gouvernement a annoncé que les cours reprenaient, là, mais cette fois en ligne. Donc, oui. J'ai décidé là, de donner ma date là, pour mon congé de maternité. Et donc, ça fait presque, là, ça va bientôt faire un an. Comment okay. Je vis ça? Je trouve ça tellement difficile parce que j'ai vraiment un sentiment d'imposteur. C'est-à-dire que Je ne suis pas dans les écoles présentement. Par contre, j'ai des collègues qui sont des amis. Je lis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que c'est pire que d'être prof. J'aurais peut-être pas le temps de les lire, mais là, j'ai vraiment tout mon temps
pour lire. Tu vois tous les débats, tout ce qui se passe.
Les débats, les articles de journaux qui passent et tout ça. Donc, je trouve ça difficile parce que j'aimerais ça être vraiment dans les écoles pour apporter le soutien, parfois à des collègues. Mais je suis à la maison, mais en même temps, je me sens vraiment impliquée dans le sens que ça me rejoint, ce qu'ils vivent, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un contexte qui est difficile, donc ça vient pas moins me chercher. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que je vis le contexte COVID et l'enseignement présentement.
Pour finir, les enseignants qui débutent ou on en a jasé, toi puis moi, en privé aussi, là, certains enseignants qui présentement sont un petit peu plus, je vais dire, à bout et qui sont dépassés, qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil qui pourrait aider autant un enseignant qui débute qu'un enseignant qui est un petit peu fatigué présentement? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
Ce ne serait pas nécessairement les mêmes conseils. C'est-à-dire que pour un enseignant qui débute, un conseil que j'aurais à lui donner, surtout dans le contexte actuel, puis j'ai vu un enseignant le faire là, sur un groupe là, d'échange là, sur Facebook. Il a pris le temps de demander. Il a dit j'ai fait ouvert mon dossier. Il y a deux écoles qui m'ont fait des offres d'emploi. Ça ressemble à quoi ces milieux-là? Est-ce que vous pouvez me dire? Cette école-là, ça ressemble à quoi comme milieu? Cette école-là, ça ressemble à quoi? Si j'accepte cette tâche-là, là, à quoi je peux m'attendre avec ces jeunes-là? Dans son cas, lui, c'était une offre en adaptation scolaire. Donc, à quoi je peux m'attendre? À quoi ça va ressembler? J'ai trouvé le réflexe tellement bon, je lui ai fait savoir. Là, j'ai dit vraiment, je trouve que tu as eu un bon réflexe.
De prendre le temps de bien choisir, parce que trop souvent, on se lance, hein, puis on ne sait pas dans quoi qu'on vient de s'embarquer. Là.
Non, c'est ça exactement. Puis déjà que quand on débute, c'est normal, hein, nos compétences ne sont pas complètement développées. Donc, sur le plan de la gestion de classe, la gestion des comportements, c'est normal, on va développer ça avec les années. En plus du contexte qui est difficile, parfois de se lancer dans une tâche, là, dans laquelle on pourrait se faire des attentes irréalistes, là, où on n'est vraiment pas au courant de ce qu'on va vivre, là, ça peut être assez décourageant, là, démotivant. Donc ça serait pour les enseignants qui débutent. Sinon, pour les enseignants qui sont un petit peu plus à bout, comme on dit ces temps-ci, je pense qu'il y a toujours des solutions, mais je dirais vraiment pour un enseignant qui est à bout, je pense lâcher comme cette année l'enseignement parce que je suis vraiment à bout. Je lui dirais, est-ce que tu as essayé premièrement de changer de milieu? Parce que si dans ton milieu, tu n'as pas un ou deux points d'appui, comme je parlais tantôt, là, un ou deux enseignants qui sont des points d'appui pour toi dans ton école, peut-être que ça vaudrait la peine d'aller changer de milieu puis de voir est-ce que dans ce milieu-là, tu trouverais des points d'appui sur lesquels là, tu pourrais construire là, puis vraiment te sentir bien dans ce milieu-là, te sentir soutenu. Moi, je suis choyée dans mon milieu.
On en a parlé avec certains enseignants, puis même des fois, changer de milieu, mais changer de niveau peut avoir aidé. Il y en a qui ont découvert que d'enseigner en première secondaire était plus parlant pour eux qu'en cinquième secondaire. Des fois, de changer d'école, de carrément changer de centre de service, s'en aller à l'autre bout du monde, si on peut. Oui. Des fois, ça peut tout changer. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas... puis on n'est pas dans notre place, on n'a pas trouvé notre gang. Puis
exactement.
On n'a pas, ouais.
Puis de niveau, là, ça peut être, ça fait des années que j'enseigne au secondaire, puis là, je pense que je vais aller essayer la maternelle ou la première année primaire. Là. C'est le temps de le faire. Il manque d'enseignants partout. Je pense qu'il faut, c'est un bon contexte, là, ça a son positif aussi.
Ouais.
C'est un bon contexte pour oser, puis aller essayer un milieu. Quitte à ne pas l'aimer, là, puis de retourner après dans son milieu. Mais...
Des fois, de changer d'équipe, de se retrouver avec une équipe niveau qui est différente puis qui rejoint nos valeurs avec qui on a des échanges intéressants, ça peut vraiment avoir un impact sur notre qualité au travail. Ça n'enlèvera pas tous les irritants, là, mais ça peut faire du bien.
Oui, puis un enseignant qui dirait, par exemple, moi, ce qui me rend vraiment le plus à bout, c'est les évaluations ministérielles. Est-ce qu'il y a un milieu dans lequel tu pourrais aller qui n'en a pas d'évaluation ministérielle? Donc, d'identifier ce qui nous rend à bout, puis d'essayer d'aller voir dans d'autres milieux, mais toujours en restant dans l'enseignement, des milieux qui n'ont peut-être pas ces irritants-là, parce que quand on change, par exemple, si je vais dans une classe qui est vraiment là, 100% en adaptation scolaire, qui font pas d'évaluation ministérielle, peut-être que moi, ça m'enlèverait cette pression-là. Je préfère des évaluations qui sont adaptées à mes élèves, je me sentirais mieux. Donc, d'aller peut-être doser, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres milieux, de poser des questions. Si la personne me dit, là, je suis vraiment à bout, puis je pense pas que changer de milieu, c'est ça qui...
Ils ont
me...
attendu là, très, très longtemps, là, puis qu'ils sont ouais, vraiment...
Oui, c'est ça. Je pense pas que ça fait une différence. Pourquoi pas prendre une année de recul, donc demander un sens solde, vraiment prendre une année de recul, aller essayer d'autres choses, aller explorer, peut-être essayer d'autres emplois, puis de voir à quel point l'enseignement me manque, oui ou non, est-ce que ça confirme des choses chez moi, là? Donc ça aussi, c'est sûr qu'il faut oser un petit peu le faire, mais ça peut valoir la peine. J'ai vu des enseignants aussi qui ont dit, pour l'année, mettons, prochaine, ce que je fais, c'est que je fais seulement de la suppléance. Donc,
on s'enlève tout le côté administratif.
Ouais, je me retire de mon poste là, qui m'assurait une certaine stabilité, là, mon poste permanent. Et je m'en vais en suppléance. S'il y a des besoins, je ne manquerai pas de...
Je vais quand même avoir un revenu, on va m'appeler.
Je vais avoir un revenu, mais je n'aurai pas de planif, pas d'évaluation. Ouais. Donc, parfois, de prendre une année, deux années, trois années, le temps que les enfants sont jeunes, le temps que les choses changent ou évoluent dans le milieu, ben ça peut nous garder en place ou dans les écoles, mais avec des tâches qui sont différentes.
Puis nous donner du temps, justement, pour réfléchir. Je reviens à ta première chose que tu as parlé qui manquait du temps, des fois, de se donner du temps. Je vais même ajouter, si on a besoin, de prendre une semaine ou deux de congé parce que c'est ça qu'on a besoin pour prendre du recul, pour prendre son souffle. C'est tout à fait correct aussi, là. Il faut savoir, des fois, prendre du recul, prendre le temps, puis réfléchir. C'est pas obligé là, d'être en congé de maladie pour prendre le temps de réfléchir, mais si c'est le cas, c'est peut-être ce qu'on a besoin, puis c'est tout à fait correct. Ouais.
C'est, puis je pense c'est que plus, c'est un petit peu tabou.
Comme, oui, mais je pense que ça change. Ouais, J'ose espérer.
Ça change. Je pense que les enseignants, on devrait se le dire entre nous, là, quand on voit qu'un enseignant va pas, là, écoute, là, t'as pas l'air d'aller. Prends du temps pour toi, prends soin de toi, prends du recul. Des fois, on est gêné de le dire à la personne, on n'ose pas, on a peur de la blesser, mais parfois, cette personne-là, c'est peut-être juste ça qu'elle a besoin, qu'elle sente que les collègues, non, ils l'ont remarqué, là, qu'elle va pas bien, puis elle, ça y confirmerait, là, que oui, là,
c'est pas un échec.
C'est pas un échec. C'est ça. On a besoin d'un petit temps de recul pour mieux rebondir, comme on dit. Donc, c'est vraiment pas un contexte qui est facile présentement. Présentement,
pas du tout. Je pense qu'on est en mode survie. Tout le monde fait ce qu'il peut. Puis je pense que c'est ce bout-là qui est présentement le plus important, là, de se donner un break un peu. Là, on n'a pas réussi à tout faire. Ce qu'on faisait d'habitude, c'est comme normal dans la situation. Puis il faut s'enlever de la pression là, de ce côté-là.
Oui, il faut se rappeler que la santé passe avant le travail. Oui. Puis nos jeunes là, qui sont devant nous, là, quand on n'est pas en santé, là, ben, ils le ressentent aussi. Hein? Donc, parfois, ça vaut la peine là, de s'arrêter un petit peu là, pour revenir là, en étant plus...
Le cliché de mettre son masque d'oxygène en premier pour pouvoir être capable d'aider les autres après.
D'aider les autres après, là, d'avoir l'énergie.
On l'entend pour souvent, celle-là, mais c'est ça pareil. Là. Si on le met pas, ben on tombe, puis... Là, c'est on ne peut plus aider les autres quand on a tombé nous-mêmes, effectivement.
Oui. Puis, je terminerai en disant que des fois, il y a des enseignants, on a un peu le... tous les enseignants sont uniques, tout ça, on est vraiment passionnés. Puis des fois, on se dit, mais là, on a comme un sentiment de culpabilité. Si je délaisse mon école, je délaisse mon groupe pendant X nombre de jours, de semaines, d'années, peu importe,
qu'est-ce qu'ils vont faire?
Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Puis là, on est comme... stressée, mais en même temps, là, c'est vraiment pas là, pour détruire l'estime de soi de personne, mais tout le monde est remplaçable. Il n'y en a pas de problème. Là. Vas-y, prends ton temps, puis ils vont trouver quelqu'un d'autre pendant ce temps-là pour prendre soin des élèves, pour prendre soin de l'école, pour prendre soin du groupe, du programme, peu importe. Puis quand tu vas revenir, là, ils vont être super contents de te revoir. Donc, faut pas oublier là, que...
De ne pas faire les Superman puis les Wonder Woman.
C'est ça. Merci de mettre des mots sur ma pensée.
On mérite nos caps, là, parce que je pense que dans le milieu de l'éducation, ouais, il y a des super pouvoirs un peu partout, mais il faut savoir aussi aller se reposer puis pouvoir prendre un moment pour soi. Là, c'est important.
Essentiel, oui.
Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de jaser avec nous. C'était super intéressant. On va espérer que tes bons conseils vont être appliqués par les enseignants qui vont peut-être un petit peu moins bien présentement. Puis, bon retour à l'école. Je l'ai dit que tu retournes l'année prochaine.
Au mois de septembre.
Donc, bon moment avec tes petits poux. Profites-en, c'est des moments qui passent vite. Il faut en profiter.
Merci, Alexandra.
Si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à vous abonner dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Vous pouvez aussi nous visiter sur le web à espaceprof.com ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.